Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech. On va vous parler de news tech, d'informatique, d'internet, de gadgets, de sujets un petit peu controversés également. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir une personne qui a toutes ses dents et une autre qui a toutes ses dents aussi d'ailleurs. Cédric Bonnet d'un côté et Corben Dorn de l'autre. Manuel, Corben Dorn.
C'est tout mélangé. Mais ouais. Bonjour Patrick.
Et bonjour Cédric Corben Bonnet Dorn. C'est la même entité, on ne sait plus trop.
Bon, ça va les dents Cédric? Tu t'es...
Oui, ça va, écoute.
Non, ça va. T'as une dent fissurée au handball?
Ouais, c'est ça, exactement. Handball, on dit en plus.
Pardon,
c'est pas un sport
aussi,
anglophone. Moi. Mais effectivement, un petit coup de coude et ça fissure les dents. Ça arrive.
Aïe, aïe, aïe. Mais c'est ça les dangers d'être sportif. C'est pour ça que je fais pas de sport, moi.
C'est ça.
Bon rappel, le sport, c'est dangereux.
Exactement.
C'est ça. Non, mais surtout, je pense que je vais me mettre un protège-dents. Donc, ça réglera le souci.
Pas bête. Voilà. C'est malin.
Bah oui, comme je joue pivot, tu prends des coups. Et aïe. Voilà. Vous savez au milieu des autres et tu prends des coups de coude sans arrêt. Donc à un moment, il faut bien qu'il y en ait un qui finisse dans ta bouche.
Il y a un autre, il y a quelqu'un d'autre qui se prend des coups de coude sans arrêt et qui finisse dans la bouche. C'est Jack Dorsey de Twitter et Mark Zuckerberg de Facebook quand ils essayent de parler des publicités politiques. Et on va voir que vraiment, c'est pas facile. Hein. Limite, moi, ça me déprime, mais on va en parler dans une minute. Il y a un autre sujet intéressant, c'est que Google a décidé de racheter Fitbit. Peut-être une direction nouvelle pour le Wear OS et les appareils d'informatique portés de Google. Et puis plein d'autres petites news qu'on couvrira ensuite. Mais avant ça, j'aimerais quand même vous dire que je veux remercier les auditeurs qui choisissent de soutenir l'émission, notamment William Picard, Gendar, La Cave DIY, Marx78, Olivier Derez, Jay, Afate Berry, Natalia Mechner et Gaël. Merci à vous tous et tous ceux qui choisissent de soutenir l'émission sur patreon.com/rdvtech. Vous êtes les anges qui font que cette émission peut exister. Et je vous envoie des bises patriotiques à tous. Non mais c'est vrai, c'est quelque chose d'important, tu vois.
Bien sûr.
Oui, j'en reparlerai un peu plus tard.
Ça me fait sourire la façon dont tu le disais, les anges.
Est-ce que ça fait toi Dieu finalement?
Oui, c'est ça.
Au contraire, moi je suis le fidèle serviteur qui reçoit la manne de ces personnes des anges, tu vois.
Oui, d'accord.
Alors, parlons un petit peu d'autres. Est-ce que je vais réussir à faire une transition avec les anges Non, ça a des ailes, c'est des oiseaux, c'est Twitter. Non, ça marche pas.
Les anges de la télé-réalité, la réalité,
Non, pas ça. Peut-être. Ouais, la réalité, c'est Twitter.
Ah, c'est 4 kilos tractés, les gars, j'ai plus beaucoup de cheveux. Hein.
Et la réalité est un peu morne en ce moment sur Twitter et sur Facebook parce qu'il y a un grand débat qui agite ces deux réseaux sociaux à l'approche des nouvelles élections américaines, mais dans le contexte des élections de tous les pays depuis quelques années, c'est la politique ou dans ce cas-là, les règles qui régissent la publication de publicité politique sur les réseaux. Alors nous, on a moins le problème en France parce que, si je ne m'abuse, les publicités en période de campagne en tout cas, et j'ai l'impression tout court, les publicités politiques sont interdites dans les médias et j'ai l'impression que Twitter et Facebook adoptent les mêmes règles. Mais aux États-Unis, c'est pas le cas. Et comme vous vous en souvenez si vous écoutez l'émission, on en parlait il y a quelques semaines déjà, Facebook a décidé de régler le problème des publicités politiques et des fake news sur les publicités politiques en ne fact-checkant pas les publicités politiques elles-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont eu des problèmes pour décider et établir ce qui était acceptable ou pas, et dans le contexte des publicités politiques, c'est-à-dire de candidats ou de partis politiques, c'est tellement touchy qu'ils se sont dit « bon bah, c'est leur message ». Donc, on ne va juste toucher à rien. S'ils veulent dire des choses qui ne sont pas justes, alors peut-être qu'il y a des cas extrêmes où ils agiront quand même, mais dans l'ensemble, s'ils veulent dire des choses qui ne sont pas justes, eh ben, on va les laisser parce que ce n'est pas notre rôle de contrôler tout ça. Alors, on en avait discuté, on en a beaucoup parlé, il y a eu beaucoup de débats sur les réseaux et dans le monde, et la plupart des gens étaient mécontents de cette décision. Enfin, il y avait, disons, des discussions avec le pour et le contre, avec beaucoup de contre, et on avait conclu au final, poussé par Marion, qui est la sagesse incarnée, évidemment, que peut-être que la meilleure solution était tout simplement de supprimer les publicités politiques tout court, de ne pas s'embêter en essayant de dire « oui, ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, est-ce qu'il faut vérifier ?» Est-ce que... Non, on supprime les publicités politiques tout court et ça règle le problème. Facebook s'est fendu d'un communiqué à ce propos en disant « les publicités au niveau financier, les publicités politiques ne représentent qu'une très petite partie de nos revenus, donc ce n'est pas pour ça qu'on veut les laisser, on pense vraiment qu'il s'agit là d'une question de choix sociétal et que c'est un devoir d'information finalement que d'amener le message des femmes et des hommes politiques aux lecteurs, aux consommateurs de Facebook. » Alors. L'annonce a été accueillie avec beaucoup de cynisme, comme on en a l'habitude avec Facebook. Et suite à ça, Jack Dorsey a tweeté une série de messages dans lesquels il détaille les raisons pour lesquelles il a décidé, lui, que sur Twitter, il n'y aurait plus de politique, de publicité politique à partir du 22 novembre. Et donc, c'est le contre-pied, évidemment, de ce qu'a fait Facebook. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, ah ben voilà, Jack Dorsey prend la décision que de nombreuses personnes appelaient de leur vœu pour le cadre des réseaux sociaux. C'est la solution qui règle un petit peu le problème parce que c'est un petit peu ce dont on, la manière dont ça fonctionne en France. Et donc, tout va bien, super. Eh bien non. Figurez-vous que suite à cette série de tweets, il y a eu différentes analyses et articles qui ont été écrits avec des critiques. Le pire, c'est que ces critiques sont complètement valides vis-à-vis de la décision de Twitter. Des remarques comme le fait, par exemple, que ça peut désavantager des candidats qui sont moins connus, des candidats qui sont moins dans les...
Ils n'ont pas la force de frappe de, voilà. Des gros candidats avec des gros financements. Là, ça permettait de faire la publicité à moindre frais et d'avoir le même impact, ciblée, finalement. Ouais. Voilà, et le même impact que les autres, quoi.
Ils ont aussi eu la critique qui est que ça ouvre un boulevard à des sociétés qui, du coup, peuvent faire de la publicité, mais on ne peut pas acheter par biais politique de l'espace pour contredire ce que disent les grandes sociétés. Ils ont également eu des critiques sur le fait qu'il était très difficile de décider qu'est-ce qui était une publicité politique et qu'est-ce qui n'était pas ? Est-ce qu'on s'arrête aux représentants des personnes élues ou des personnes qui sont dans l'élection ? Est-ce qu'on s'arrête à ce qu'ils ont aux États-Unis, les groupements, les PACs, les groupements qui travaillent pour faire élire quelqu'un ? Est-ce que, etc., etc. Et toutes ces discussions sont parfaitement valides. Et du coup, ça m'a un petit peu fait baisser les bras et... Je sais
tu t'es dit, je sais plus quoi faire.
Ouais, non, je sais plus quoi penser, je sais plus quoi faire. Ça s'applique pas qu'à ce sujet, mais je me dis, c'est critique. C'est pas des critiques où on se dit, ah, personne n'est jamais content. C'est des trucs auxquels j'avais pas forcément pensé ou c'est pas faux. Donc, écoute, Cédric, tu as l'air de comprendre le sujet. Qu'est-ce que je dois faire? Dis-moi ce que je dois penser, s'il te plaît. J'ai besoin de guidance.
Le numéro que vous avez demandé, mais pas sincèrement. Je suis un peu comme toi. C'est pour ça que je comprends bien ton point de vue, c'est parce que je suis un peu comme toi. C'est-à-dire que... En fait, il y a peut-être quelque chose qui t'a mis chemin entre les deux. C'est-à-dire qu'autoriser la publicité politique, c'est une chose. On sait que... En fait, le vrai problème, c'est que souvent dans ces publicités politiques, c'est pour ça qu'ils s'accrochent à... Enfin, ils essaient de régler ce souci-là, c'est que... Souvent, les fake news passaient aussi par là, parce que ça contourne une partie de la modération par le public. Tu vois ce que je veux dire ?
Oui, c'est, mais tu vas me dire, on essaye de réguler les publicités politiques de, avec, enfin, en
faisant du fact-checking.
Mais oui, mais on s'est bien rendu compte que le fact-checking, même sur les articles de magazines et de journaux, ne fonctionne pas non plus. Donc,
non, c'est ça. Et en fait, le vrai souci, c'est, je pense qu'il faudrait autoriser la publicité politique, mais qu'elle réponde à certaines règles très précises. En gros, qui est une vraie charte de la publicité politique sur les réseaux sociaux, tu vois, qui s'engage à ne pas mentir, à ne pas
ne
comporter que des faits. Non, mais je parle
c'est
du monde des bisounours.
Ouais. Oui, d'accord, ok, oui.
je parle de l'idéal et la chose qui me ferait dire je suis ok pour la publicité politique à condition qu'elle respecte une certaine charte pour être diffusée. Mais on le voit bien, c'est quelque chose qui est complètement inapplicable et donc du coup. Si on ne peut pas appliquer une règle, effectivement, peut-être que la solution, c'est simplement de l'interdire avec, effectivement, le risque de couper la parole à certains petits partis ou certaines personnes qui ont des idées et des choses à faire passer, qui n'ont pas les moyens de financer des campagnes classiques d'affichage et tout ça. Et les réseaux sociaux, ça leur permettait finalement d'arriver à faire de la pub, de toucher une masse de gens en dépensant moins. Alors...
disons qu'en France, par exemple, on n'a effectivement pas de publicité politique. Ça n'empêche pas aux plus petits partis d'avoir une certaine existence, mais c'est très particulier aux États-Unis aussi, où il y a deux énormes partis qui phagocytent absolument tout.
Oui, c'est ça.
Et puis, un territoire qui est immense. Il y avait quelqu'un qui proposait quelque chose d'intéressant, d'ailleurs, qui disait des règles sur les réseaux sociaux qui seraient, par exemple, de ne pas pouvoir faire du micro-ciblage. Donc, on ne pourrait pas cibler des personnes très, très précises, mais on pourrait cibler une zone géographique et c'est tout. Ce qui pourrait effectivement être quelque chose d'un petit, qui égaliserait un petit peu le niveau. Corben, toi, tu gères les internets depuis un moment avec des... ton blog, tu connais ça depuis un moment. Tu t'allais dire...
Je pense que Jack Dorsey a pris la bonne décision, même s'il y a des problèmes, comme tu le disais, par rapport à la visibilité, etc. Mais je pense qu'il y a deux soucis. Il y a d'abord je sais qu'on est dans une époque où il y a des millionnaires stars de la télé-réalité qui deviennent présidents, notamment de grands pays. Mais la question, c'est est-ce que les politiques ou des idées politiques ou des programmes politiques ou des personnalités politiques peuvent être mis au même niveau qu'une pub pour un produit ? Est-ce que c'est des produits finalement ou est-ce que c'est autre chose ? Donc est-ce que ça rentre dans un cadre publicitaire vraiment pur et dur ? Possible, hein, j'en sais rien, mais le deuxième, pour moi, ça colle pas trop la pub pure et dure avec.
On dit que c'est de la pub parce que c'est comme ça que ça se passe concrètement sur les réseaux, c'est-à-dire que c'est un article que tu promeux, mais.
Là, le problème que je vois, c'est que ces publicités, elles sont jamais neutres, en fait, quand elles sont diffusées, parce qu'elles sont ciblées. Et si t'as,
ouais, c'est pour ça que l'idée de limiter le ciblage, en fait, est intéressant pour les publicités politiques, mais.
Limiter, voire l'interdire, entre guillemets. Enfin, mais du coup, déjà, c'est complètement déséquilibré, déjà, par rapport à tout un tas de facteurs, hein, que ce soit déjà des opinions que t'as parce que tu t'es exprimé sur tel ou tel sujet et que Twitter, les algos de Twitter t'ont rangé dans telle ou telle case, ou par rapport à ta position géographique, ou je sais pas, ton niveau de ce que tu gagnes tous les ans, etc. Enfin, déjà, c'est tellement. C'est tellement tronqué, malmené, enfin je sais pas, tellement déséquilibré globalement que je vois pas comment ça peut marcher, tu vois, même quand tu dis si on a, ça avantage les petits partis, enfin ça peut aider les petits partis, etc. Mais même ça, j'en suis pas sûr, parce que je me dis qu'en fonction de qui tu cibles, etc., peut-être que ça a des avantages, peut-être que ça a des avantages, mais pour moi, c'est un tel sac de nœuds, un tel bordel, que je pense qu'il fait bien d'interdire ça, tout simplement, quoi, même s'il y a des répercussions. Ça me paraît trop compliqué, et effectivement, c'est un facteur c'est un vecteur plutôt de fake news ou en tout cas de bataille rangée et quelque part est-ce que t'as envie de voir de la pub pour des choses politiques tu vois dans tes flux aussi
c'est autre chose mais c'est une culture qui est un peu différente aux États-Unis j'aurais tendance à me ranger à ton opinion au final après une fois réflexion faite c'est que oui, comme je le dis souvent, en fait, le fait qu'une décision ne soit pas parfaite et pose des problèmes, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la prendre. Parce que sinon, on ne prend jamais aucune décision sur rien, parce qu'il y a toujours des potentiels problèmes qui sont générés par cette décision. Et je crois que malgré tout, une fois que tout a été dit, le fait de ne pas accepter les pubs politiques reste une meilleure décision que le fait de les accepter et d'essayer de se dépatouiller avec. Peut-être qu'une solution intermédiaire, comme on le disait, de ne permettre le ciblage que sur une petite zone géographique, je crois qu'il parlait de comté, ça pourrait effectivement être un compromis acceptable, mais à voir, quoi.
Ouais, mais t'es Twitter, t'as déjà tellement de merde à gérer avec les fake news, avec le harcèlement et tout ce que tu veux, que la publicité... Enfin, je pense qu'il a pris l'option la plus simple pour lui, tu vois, la plus rentable. En fait, parce que s'il commence à faire des exceptions, des règles, il faut des équipes de modération, il faut les former, il faut que les gens analysent les pubs et tout, tu t'en sors plus, quoi. Enfin, à un moment, enfin, moi, en tout cas, j'aurais pris la même décision que lui si j'étais PDG de Twitter. J'aurais sûrement pris la même décision que lui.
Écoute, c'est peut-être ça la solution intermédiaire acceptable, c'est que Corbyn soit PDG de Twitter. Et pourquoi s'arrêter à Twitter d'ailleurs ?
Facebook. PDG d'Internet.
PDG d'Internet. T'es déjà le chef. Justement, à propos d'Internet, qui dit Internet dit Google, et qui dit Google cette semaine dit Fitbit, puisque Google a choisi d'acheter Fitbit, une société de technologie portée, donc de trackers de santé, etc., il y a quelques jours de ça, pour une somme de 2,1 milliards de dollars.
Comme je disais sur Twitter, j'ai payé mon Fitbit beaucoup moins cher que Google, je précise.
Alors, tu es utilisateur de Fitbit, je crois que non, Cédric les a utilisés pendant un moment aussi.
Ah oui,
c'était des appareils qui vous plaisaient. Là encore, j'ai lu tout et son contraire sur cette décision de Google, sur cet achat de Google. Certains disent que c'est une excellente idée qui va permettre à Google de renforcer son Wear OS et leur permettre de développer d'autres moyens d'aspirer nos données, et en l'occurrence nos données de santé, puisque c'est l'un des...
Ah mais là, clairement, de... clairement, le problème de Wear OS, c'est que les données de santé, c'est absolument merdique par rapport à ce que fait Fitbit ou Apple avec l'Apple Watch ou même d'autres. Donc, c'est pas étonnant. Moi, je trouve que c'est vraiment, pour l'aspect santé en tout cas, c'est un vrai gros transfert de technologie et de savoir-faire de le rachat de Fitbit par Google, parce que les montres Wear OS... C'est presque des montres gadget geek, quoi, tu vois, tes SMS, ton assistant, machin et tout ça. Mais pour l'aspect sport, je mets au défi quiconque, là, ceux qui écoutent le Rendez-vous Tech, de me dire que vraiment, c'est un très bon tracker d'activité. Alors, c'est pas parce que les capteurs sont mauvais, mais surtout le logiciel qui n'est pas bon. Et même au-delà de ça, leur appli de santé était en panne pendant un moment, les synchronisations ne se faisaient plus. Enfin, à un moment, on s'est même demandé s'ils allaient arrêter cette partie-là, fitness et tout ça, parce que ça fonctionnait pas, quoi.
Bah, c'est justement ce qui est cohérent avec Fitbit, t'as raison. Et même Fitbit, je trouve qu'ils font du matériel qui n'est pas mauvais non plus.
Très bien, exactement. Ils avaient récupéré Pebble à l'époque. Et donc du coup, c'est le rapprochement de tous ces trucs-là. Honnêtement, Google a un vrai gros coup à jouer. J'espère qu'ils ne feront pas un truc à la Motorola comme ils l'avaient fait à l'époque.
Ouais, c'est exactement ce à quoi pensent certains.
C'est ce qui me fait très peur. Ouais. Mais s'ils le font bien, ils ont vraiment moyen de faire un truc hyper bien pour la santé, le sport, tout ça, la remise en forme, la perte de poids et tous ces trucs-là. Parce que c'était vraiment leur objectif de créer un espèce de coach ou d'assistant qui t'aide tous les jours, même à trouver la motivation d'aller plus loin et tout ça. Google a les moyens de faire ça. En rachetant en plus Fitbit, il y a un transfert de technologie, encore une fois, qui est top et de savoir-faire. Ils ont des programmes Fitbit, même de remise en forme, de plein de trucs qui sont hyper intéressants. Si tu arrives à intégrer tout ça, ça peut vraiment être cool, quoi.
Fitbit, il faut noter qu'ils sont effectivement... Alors, c'est de la technologie portée, c'est du wearable et tout ça. Il y a du logiciel. Et ils se concentrent, comme l'indique le nom,
sur la santé.
Et donc, ma question pour les gens qui ne connaissent pas forcément, c'est est-ce qu'il y a la possibilité de faire un système qui est meilleur que celui d'Apple en... smartwatch.
Ah oui.
Du côté c'est vraiment au-dessus.
Oui,
quoi.
Apple a ce petit avantage sur la santé, on va dire, pas forcément des sportifs, mais la santé de monsieur tout le monde. avec le CG pour tout le monde, machin, tout ça, les petits diagrammes, ça qui sont sympathiques et tout, mais je trouve que le suivi, la façon de représenter les données, l'exploitation des données est mieux faite chez Fitbit, par exemple. Par contre, c'est pas aussi ergonomique, joli, tout ça, comme le package Apple d'habitude. Et c'est là où Google peut peut-être apporter quelque chose. C'est dire, ben, nous, on fait plutôt du grand public avec nos montres, dans le sens où il n'y a pas de fitness, il n'y a rien, machin. Vous, vous êtes très pointu sur ça. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose entre les deux. Mmh. Et pour moi, ça serait vraiment une vraie offre concurrente à l'Apple Watch. Une montre sous Wear OS avec les techno fitness, machin de Fitbit. Enfin, il y a vraiment moyen de faire quelque chose d'hyper intéressant. Moi, cette annonce m'a surpris. Et en même temps, je me suis dit que c'était vraiment le bon move à faire pour Google.
Bah, d'autant plus qu'effectivement, on voyait Wear OS, donc leur OS de technologie portée, commencer à se...
Ouais, ça stagnait un peu. Ils avaient fait des évolutions, voilà. Mais ça stagnait. Et ils disaient que le problème venait du matériel. Maintenant, ils commencent à avoir du matériel avec, pareil, le rapprochement de fossiles, hein, entre Google et fossiles. Ils commencent à avoir du matériel sympathique. Qualcomm qui a sorti un processeur qui enfin consomme moins et qui est gravé plus fin. Ils en promettent un nouveau encore l'année prochaine qui sera encore gravé plus fin, donc consomme encore moins d'énergie et tout ça. Plus l'arrivée de Fitbit avec son apport technologie et tout ça. Honnêtement, il y a moyen que l'année prochaine, les montres, enfin l'année prochaine ou celle d'après, quand les équipes seront intégrées, il y a moyen d'avoir quelque chose d'hyper intéressant du côté de Google, clairement.
Hein. Donc, retour de Wear OS et retour en force de Wear OS et peut-être une Pixel Watch chez Google. Corben, ça t'inspire quelque chose?
Ou des trackers pas très chers, tu vois, Fitbit, c'est spécialisé du tracker pas trop cher, efficace. Il y aura peut-être un entre-deux, ça permettrait d'avoir une gamme, voilà.
La vraie question que je me pose, c'est est-ce que Fitbit, c'est plus gros dans ce secteur, en fait?
Ça l'a été.
Ouais, Apple.
Ça l'a été, Fitbit. Ils ont été leaders pendant très longtemps, jusqu'à la sortie de l'Apple Watch.
Ouais, mais c'est Apple, mais juste en dessous, c'est Fitbit, quoi.
Ouais, c'est ça.
D'accord.
Il y a Garmin sur le running, mais pas vraiment sur le fitness et tout ça. Sinon, c'est Fitbit, ouais, vraiment.
Ouais, moi, je trouve ça intéressant. Après, en plus des technologies, je pense qu'ils récupèrent aussi les données, ou en tout cas les utilisateurs pour après, quand ils vont... Enfin, j'imagine qu'après, Google va aussi proposer quelque chose en termes de santé, de stockage. Il y a des grands sujets là-dessus sur tout ce qui est e-santé, dossier médical, conservation des data, etc. Avec les médecins et compagnie. Peut-être que c'est un de leurs projets aussi. Il leur faut du matos, quoi.
Oui, exactement. Et tu vois, quand tu vois on le dit souvent, hein, Google est capable de prédire le début d'une épidémie de grippe ou de gastro, ou de machin, avec les gens qui tapent les symptômes. Sur Google.
Rien que dans le moteur de recherche. Ouais,
rien que dans le moteur de recherche. Donc imagine si en plus tu as quelques données de santé, ils pourraient envoyer des messages de prévoyance via leur appli. Enfin, il y a tellement de choses à faire.
Attention, épidémie de gastro, n'allez pas chercher vos enfants à l'école.
Oui, c'est ça, ouais. Bon, allez-y, mais vous mettez dans un sac en plastique avec des gants et un masque et vous touchez rien.
Ah, c'est bon, bah écoutez, vous m'avez convaincu qu'il y a effectivement quelque chose à faire. J'étais pas trop sûr, mais oui, il y a du coup, maintenant que le marché des technologies portées, smartwatch, etc., est tellement mature, c'est un bon moyen pour Google de sauter sur le devant de la queue, quoi. Ils font plus la queue derrière, là, tout à coup, ils sont en deuxième place directement. Bon, intéressant. Écoutez, on va faire une petite pause pour que je vous parle de Hachette. Hachette qui a laissé un commentaire sur le iTunes du rendez-vous tech pour dire « J'aime et je supporte, enfin !» Effectivement, Hachette dit « Bonjour, après des mois de procrastination, je viens enfin de prendre 3 minutes pour supporter ce podcast via Patreon, podcast qui permet d'avoir une vue globale de tous les sujets touchant la tech. J'apprécie d'autant plus les informations relatives à l'impact de la tech dans l'actualité de nos sociétés. J'aime le ton toujours constructif qui me change des forums. Merci à toi, Hachette. Et si, comme lui, vous appréciez l'émission et que vous procrastinez depuis des mois, eh bien, vous pouvez prendre 3 minutes, littéralement, ça prend 3 minutes, pour soutenir l'émission financièrement financièrement sur Patreon, patreon.com/rdvtech. C'est super facile, vous choisissez la somme que vous donnez, vous pouvez vous arrêter quand vous voulez. Et en plus de ça, vous avez accès au podcast privé des Patriotes avec des éditos notamment. J'ai mis un édito sur les AirPods. Pendant que j'étais aux États-Unis, j'ai enregistré un petit truc vite fait, les AirPods Pro que j'ai essayé là-bas. Je l'ai publié il y a quelques jours de ça, donc vous avez accès à ça, aux émissions sans pub et à tout un tas de contenus sympathiques. Donc n'hésitez pas, patreon.com/rdvtech. Si vous appréciez l'émission, je pense que c'est quelque chose à considérer.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Parlons un petit peu de news et de rumeurs. Est-ce que vous avez entendu parler de Microsoft et Warner Bros. Qui ont développé une petite plaque de verre sur laquelle on peut stocker des données pour des millénaires ?
Oui.
Non,
oui,
ou alors,
j'ai vu ça gravé au laser sur son couche. En fait, ce n'est pas nouveau, effectivement, parce que dans les années 2000, il y avait déjà un système comme ça de multicouches, mais ce n'était pas sur du verre, c'était un autre truc qui était un peu plus fragile.
Ouais. Alors là,
et là, c'est du quartz, carrément.
C'est ça, c'est du quartz. C'est le projet Silica qui Silica, a ouais. pour but de préserver les données, et notamment les données culturelles, sur le long terme. Et quand on parle de long terme, on parle de siècles et de millénaires. C'est des supports qui ne sont pas utilisés comme des disques durs ou des clés USB ou des trucs qu'on va utiliser tout le temps, mais en même temps qui ne s'abîment pas, qui ne se dégradent pas, qu'on peut exposer à des conditions vraiment extrêmes, les bouillir, les chauffer, etc. Et ça garde quand même les données. Et du coup, tant qu'on a un lecteur pour ça, on peut récupérer le petit morceau de quartz, en fait, pas de verre. On peut stocker pour le moment les données du film Superman de 1978, qui est celui avec lequel ils ont fait le test, sur un petit carré de verre qui fait 7,5 × 7,5 cm.
C'est ça. Et 2 mm d'épaisseur.
2 mm d'épaisseur, et il grave au laser sur plusieurs couches des
100
données
couches.
Dans le... Pardon ?
Ouais, c'est fou. Sur 100 couches, exactement.
Ah, je croyais que c'était moins que ça, peut-être.
Non, c'est sur 100 couches.
Donc, c'est un premier test et ça va continuer à être développé. Et c'est peut-être un moyen... Je sais qu'avant, on mettait on faisait des disques... en métal, en or peut-être même. Non, c'est fragile l'or, je ne sais plus, mais il n'y avait pas vraiment de moyens, c'est tout bête, hein, mais les DVD, les CD, les disques durs, tout ça se dégrade au fil du temps. Et les disquettes, bien sûr, les supports magnétiques. Et donc, c'est un vrai problème de savoir comment conserver les données sur le long terme.
Dans le cloud
Oui, dans le cloud, tu les mets où ? Donc là, c'est du cold storage, c'est du très cold storage. Ouais. Et c'est une technologie.
C'est pas réinscriptible. Et en fait, ouais, l'année dernière, le prototype qu'ils avaient faisait 75 couches et là, maintenant, c'est 100. Et sur cette plaque, c'est, je crois, 56 gigas ou 75 gigas, je crois, de données sauvegardées sur cette plaque de 7,5 × 7,5 et 2 mm d'épaisseur.
C'est joli, ça me ferait des beaux sous-bocs pour mes verres à bière.
Oui, c'est ça.
Mais c'est magnifique. Non, mais tu rigoles, mais c'est... Il y a quelque chose de symboliquement...
Tu fais une rayure dessus.
Ah, l'horreur. Non, mais symboliquement, tu vois, c'est intéressant. Tu peux mettre un petit... c'est comme se servir de sous-verre, enfin, de disquette comme sous-verre, tu vois, mais je sais pas, le fait de l'avoir quelque part.
Non, c'est impressionnant quand même, l'idée de graver ça dans du verre.
J'avais vu ça avec des petits cubes en verre, ça gravait
stockage
en... 3D, ouais, ça a l'air pas mal aussi.
Et là, l'idée de garder ce format si petit, c'est que tu la rends dans un lecteur qui ressemble un peu à un lecteur disquette, en fait, pour déchiffrer ce qu'il y a dessus, quoi.
Ouais, ils ont mis le cube à plat, en fait.
C'est peut-être pas assez futuriste si c'est pas en cube. Peut-être que les prochains seront en cube juste pour qu'on soit plus loin vers le futur. Mais pour aller encore plus loin vers le futur, il y a la suprématie quantique que Google dit avoir atteint. Alors, qu'est-ce que c'est que la suprématie quantique ? On a vu beaucoup d'articles sur le sujet. Pour vous expliquer une seconde, en fait, la suprématie quantique, le problème, c'est que les ordinateurs quantiques, même s'ils commencent plus ou moins à marcher, en fait, ils savent pas grand-chose. Parce que tout ce qui font, on réussit plus ou moins à le faire avec les ordinateurs classiques en plus ou moins le même temps. Et en fait, ce qu'a fait Google, c'est qu'ils ont réussi à résoudre un problème grâce à un ordinateur quantique qui, selon eux, n'aurait pas pu être résolu par un ordinateur classique en un temps raisonnable. Alors ça, c'est la définition de la suprématie quantique. Ça ne veut pas dire que les ordinateurs quantiques peuvent tout faire et supplantent les ordinateurs classiques. C'est que on a trouvé un problème spécifique sur lequel ils font les choses... C'est même pas mieux qu'un ordinateur normal, mais ils font des choses qu'un ordinateur ne peut pas faire raisonnablement. En l'occurrence,
c'est quel problème ?
Alors, en l'occurrence, c'est un problème. Si je ne me trompe pas, c'est une méthode pour avoir des chiffres vraiment aléatoires. Je crois bien, ne me tapez pas dessus si c'est pas ça, mais c'est je crois ce qui a été établi, et ils l'ont fait en un temps donc raisonnable. C'est 3 heures, je crois. Alors qu'un ordinateur classique aurait pris 11 000 ans ou 10 000 ans. Non, pardon, c'est 3 minutes et 20 secondes, voilà. Alors que des supercalculateurs qu'on connaît auraient pris 10 000 ans à résoudre le même problème. Alors,
Rien du tout, quoi.
Le problème, effectivement, là, ça aurait pu être la suprématie quantique pour de vrai. Mais le problème, c'est que IBM a dit et a fait la démonstration d'une autre méthode pour résoudre ce problème, mais avec des ordinateurs classiques. Là où les ordinateurs quantiques auraient pris 10 000 ans à le faire, les ordinateurs classiques prennent beaucoup, beaucoup moins de temps. J'aurais dû mieux préparer, je n'ai pas la durée exacte, mais c'est de l'ordre de quelques heures. Donc, c'est... Le problème, c'est qu'en fait, IBM a établi une démonstration, mais ils ne l'ont pas vraiment mise en place. Donc, on ne l'a pas effectivement fait. Donc, en fait, si quelqu'un veut dire que la suprématie quantique a été atteinte, ils peuvent. Et si quelqu'un veut dire qu'elle n'a pas été atteinte parce qu'un vrai ordinateur, enfin un ordinateur classique peut le faire aussi, eh bien, ils peuvent aussi. Donc, on vous laisse décider ce que vous voulez, mais c'est les données, voilà, vous les avez maintenant.
Corbin, c'est la suprématie de Schrödinger, en fait. Ils l'ont et ils ne l'ont pas en même temps.
Ils l'ont exactement.
D'accord.
Exactement. Voilà, c'est ça. Quoi d'autre ? Facebook a un nouveau logo pour Facebook qui n'est pas Facebook. Alors attention, on explique. Wow. Le nouveau logo pour la société Facebook, sous laquelle existe le réseau social Facebook, mais aussi Instagram, WhatsApp, Oculus et d'autres produits. Alors donc, ils ont le logo de la société Facebook, qui est un gros logo en majuscule, qui change de couleur en fonction du produit auquel il est associé. Donc plutôt rouge, jaune, orange pour Instagram, plutôt vert
pour WhatsApp,
etc., etc. Et la société, enfin le réseau social Facebook, eh ben il reste en minuscule et en bleu. Et donc c'est un moyen de différencier les deux entités. À un moment où on est en train de dire que Facebook est trop gros et qu'il faudrait peut-être les séparer, je ne sais pas si c'est vraiment judicieux ou... mais vraiment, genre si c'est intelligent ou pas une bonne idée de mettre le nom de Facebook partout, quoi. Enfin, de montrer que la société possède...
Je pense que c'était déjà comme ça, mais ils auraient dû faire comme Google, se rebaptiser Alphabet, et puis... Enfin, tu vois, c'est un peu con, effectivement, de rester sur ce mot Facebook. Les gens mélangent tout, autant ils auraient pu dire on change de nom, quoi. Enfin, tu vois, on change pas le nom du site, mais on crée une
société,
un équivalent d'alphabet, oui. Une société, voilà. Ils auraient dû s'appeler Face de Book, hein, comme disent tous les gens autour de moi, qui veulent faire de l'humour.
Oui,
je pense
ça,
que
exactement.
ça pourrait marcher.
Ouais, je sais pas, en même temps, c'est quelque chose d'un petit peu... comment dire, c'est volontaire, ils vont de l'avant, ils disent, bah oui, on est Facebook, on fait plein de choses, on est fiers de notre, je ne sais pas s'il y a matière d'être fier, mais on est fiers de notre histoire, tu vois. Ah, il y a quelqu'un qui t'appelle, Cédric.
Non, c'est une publicité sur,
politique
sur le Figaro Facebook. Qui vient de se déclencher, parce que je regardais les logos en même temps. Voilà. Il n'y avait pas de publicité, puis d'un coup, elle est arrivée toute seule.
Cédric, qu'est-ce que tu en penses? C'est une bonne idée ou une mauvaise idée?
Franchement, commenter ça, je sais pas.
Bon, bah
pour moi, c'est pas une super idée, c'est pas un truc de ouf. Je pense que c'est un peu de... c'est comme toi, enfin, ce que tu disais sur les, sur comment le, ah, le, la boîte toute puissante là, qui a toutes ces, qui a,
Facebook, fin... Google, Alphabet.
Non, mais tu sais, quand c'est obligé de se faire diviser par le gouvernement.
Oui, sur la le monopole.
Voilà, c'est ça, le monopole. Désolé, mot m'échappait. Ouais. Mais quelque part, c'est un peu con parce que voilà, ça renforce cette idée que Facebook a le monopole de tout un tas de services et du coup croise les data, etc. Alors si c'était un peu détaché de ça et avait fait un truc un peu au-dessus, bon.
Peut-être. Mais alors justement, puisqu'on parle de données et d'utilisation de ces données, il y a une conclusion intéressante qui a été rendue par le... Alors, que je vous donne le nom exact de l'organisme anglais qui a pris cette décision. C'est le ICO... qui est le Information Commissioner's Office, donc le bureau du commissaire à l'information, qui enquêtait sur Cambridge Analytica. Alors, ils ont mis une amende de 500 000 pounds à Facebook pour le problème de Cambridge Analytica, mais ce n'est pas ça qui est intéressant, en fait. Ce qui est intéressant, c'est que dans leur conclusion, ils ont dit qu'ils n'avaient pas pu déterminer que Cambridge Analytica avait obtenu des données de citoyens de l'Union européenne et que donc, a priori, les données étaient uniquement de citoyens américains, ou on ne sait pas, mais en tout cas, qu'il n'y avait pas de citoyens de l'Union européenne qui avaient été pris dans ce scandale et que donc leurs données n'avaient pas fait partie des analyses de Cambridge Analytica. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on a beaucoup parlé de la manipulation des élections qui avaient été faites par les données rendues possibles par Cambridge Analytica pendant le scandale, enfin le vote du Brexit, pendant les élections en France, etc. Et on partait du principe que ça avait servi sans vraiment savoir. Et bien là, en l'occurrence, même s'ils ont fait une enquête assez longue et sérieuse, ils n'ont pas trouvé de données de l'Union européenne. Donc, même moi, moi aussi, je me suis dit, Cambridge Analytica, donc, machin. Bon, ça ne veut pas dire que ces données de Cambridge Analytica n'ont pas été utilisées pour créer des modèles, blablabla, mais c'est intéressant de voir qu'en fait, il n'y avait pas de données d'Européens qui ont été utilisées pour ça. Donc, voilà, c'est bon à savoir, quoi.
Tout à fait.
Corben, non?
Non, bah écoute, ok, s'ils le disent, on va les croire. Voilà,
non, mais là, c'est pas Facebook. Mais c'est pas Facebook qui le dit. Attention,
non, mais sûr que non,
c'est pas Facebook, c'est un organisme
d'État.
Mais un organisme d'État anglais qui n'a vraiment pas intérêt.
Moi, les Anglais, je leur fais pas confiance. Ces gens-là qui... non, ça, c'est pas possible.
Ils mettent du sucre sur leur petit pois, mais...
Ils roulent du mauvais côté de la route. Ils votent pour quitter l'Europe, mais ils sont encore là jusqu'en janvier. On comprend plus rien. Est-ce qu'ils sont avec nous? Est-ce qu'ils sont plus avec nous?
Il faut avouer.
Gouverner par des corgis. Enfin, je veux dire.
Ouais, non, mais là, c'est compliqué, quoi.
Bon, alors un truc moins compliqué, c'est le nouveau logo, encore un nouveau logo de Microsoft, qui Edge. Fait Microsoft non. Edge version oui. Chromium. Alors, qu'est-ce que c'est que ça?
C'est une vague.
Alors le logo, c'est un peu une vague, mais Edge Chromium, c'est quoi? C'est le passage du navigateur par défaut de Microsoft, donc du navigateur de Windows, au moteur Chromium, qui est le moteur développé par, en open source par un groupe géré notamment par Google. En gros, c'est le moteur de Chrome. Et ça veut dire qu'il y a de très nombreux... navigateur Internet qui aujourd'hui fonctionne avec le même moteur de Chrome. Alors, c'est un problème dont on pourrait discuter à un autre moment, mais ce navigateur, nouvelle version de Edge, arrive, il est plus fiable, il y a plein d'avantages par rapport à l'ancien Edge. et là, il est presque en phase de fin de développement.
Il a release candidate, nouveau... donc là, il reste plus c'est que ça. Quelques mois pour savoir si ça va être celle-là, si, sauf bug majeur.
En gros, on est presque à la fin du développement du navigateur. Et on a ce logo donc, qui ressemble à une sorte de vague, mais un E pour rappeler Edge et Explorer, mais qui en même temps est une sorte de vague. Est-ce qu'il est important de savoir que Edge Chromium arrive et de l'utiliser même plutôt que Edge ? Est-ce que ça pose des problèmes, Edge ?
Non. Moi, mon avis, là, déjà sur le logo, je trouve que ça ressemble un peu à la queue de Firefox. Sur la forme un peu vecto, comme ça, voilà.
Je trouve aussi. Mais c'est bleu et vert. Firefox, c'est rouge et jaune. Donc,
ouais, t'as des versions bêta qui sont avec ces couleurs-là aussi de Firefox. Mais bon, c'est marrant. Et est-ce que l'utilisation du moteur de Chromium dans Edge est un problème ? Je pense pas. Hein. C'est un truc, je veux dire, il y a plein de navigateurs qui l'utilisent. C'est open source. Il y a des discussions. C'est pas Google qui a une technologie fermée et que tout le monde se repose dessus et puis un jour il pourrait y avoir des abus. C'est un truc, c'est un projet, un socle commun comme tout un tas de langages de développement aussi qui existent comme ça, qui sont développés par des boîtes et qui sont après utilisés dans d'autres trucs, mais c'est pas, enfin, pour moi c'est pas un problème quoi. Maintenant la question c'est surtout par rapport à déjà Edge, l'utilité de Edge en soi, bon, c'est le navigateur, on dit toujours c'est le navigateur, enfin comme Internet Explorer,
télécharger
ceux des autres, mais voilà, alors ça va peut-être les mettre à niveau, pourquoi pas, moi je pense que c'est...
Il y a des gens qui sont très satisfaits de,
déjà de
Edge Chromium. Hein. De Edge Chromium.
Edge Chromium, bon bah voilà, donc je pense que c'est bien, parce qu'en fait c'est un Chrome que t'as pas besoin d'installer parce qu'il est déjà intégré avec ton Windows, quoi. C'est un peu l'idée, je pense, à terme.
Oui, c'est ça, en termes de rendu de page, tout ça, pour les devs, c'est juste parfait.
Oui, parce qu'il faut rappeler effectivement que différents moteurs de rendu qui intègrent les navigateurs Internet peuvent rendre les pages, peuvent afficher les pages web de manière un peu différente. Et l'une des critiques qui était exprimée à propos du passage sous Chrome de Edge, alors attention, c'est compliqué, hein, mais l'une des critiques était que du coup, ça veut dire que Chrome ou Chromium devient le moteur dominant, il y a très très peu de navigateurs qui fonctionnent avec un autre moteur de rendu, et que donc on risque de... Parce qu'il y a toujours des petites différences minimes entre les différents moteurs de rendu, mais donc le monde risque de commencer à ne coder les pages web que pour Chrome, puisqu'il est majoritaire, et donc délaisser les autres, et donc ne plus forcément adhérer à tous les standards.
Mais... C'est ce qui s'est passé avec IE. Hein. IE a été complètement délaissé par les développeurs, parce que c'était plus le navigateur dominant sur le marché. Donc du coup, les gens ont arrêté de développer pour Internet Explorer. Et donc c'est pour ça qu'il y a plein de sites qui ne marchent pas sur Internet Explorer. Mais à un moment, Firefox va passer aussi au moteur Chromium. Hein. Je ne sais pas sur quoi ils sont là en ce moment, je n'ai pas suivi.
C'est pas Gecko, c'est pas Gecko Firefox.
Je ne sais plus, ça a changé il y a quelques années. Mais bon, peut-être qu'à un moment, ils vont basculer sur Chromium. Bon, ça va sûrement gueuler chez les barbus, mais en soi, pourquoi pas. Enfin, je veux dire, si déjà, ça évite du taf aux développeurs, ça évite les problèmes de compatibilité, etc. Ça fait moins de boulot, ça fait des standards qui sont... Bah, voilà, c'est du standard. Et quelque part, ça met peut-être aussi des contre-pouvoirs, parce que vu que le moteur va être utilisé par des grosses boîtes comme Microsoft dans des gros projets comme Edge, etc., Microsoft aura aussi son mot à dire sur le développement, où est-ce que ça va aller. Donc, ça va, quelque part, ça évitera aussi... Ça va rééquilibrer un peu la balance.
Ouais, ils ont d'ailleurs rajouté des petites fonctionnalités, des petits trucs, justement, en y mettant les mains dedans.
Moi je trouve ça pas trop mal, sachant que c'est quand même un truc open source. Après, c'est bien d'avoir toujours de la diversité, mais quelque part, je me dis que Firefox est en train de se faire un peu distancer là, avec ça.
Bon, en même temps, il reste un navigateur performant, mais ça peut paraître un petit peu obscur ce dont on parle quand on parle de moteur de rendu du web. Mais c'est important à comprendre quand même, parce que c'est vraiment la fenêtre avec laquelle on visualise le web. Et ça peut avoir des conséquences vraiment dramatiques sur la manière dont le web se développe. Donc bon, voilà, c'est bon à savoir aussi. En tout cas, ça arrive le 15 janvier, normalement, en disponibilité générale.
Cool.
Valve serait en partenariat avec Apple pour un casque de réalité augmentée. c'est la dernière rumeur qu'on entend à propos de ce casque de réalité augmentée d'Apple, sachant que Valve a développé son casque de réalité virtuelle ce coup-ci et que donc ils ont une certaine maîtrise du matériel pour ce genre de, d'initiative. Cédric, est-ce que tu y crois ? Est-ce que tu es intrigué ? Qu'est-ce que tu en penses ?
Moi, j'y crois pas trop. J'y crois pas trop parce que Valve, en fait, c'est pas eux hein, qui ont. Enfin, c'est pas eux. Ils ont racheté la division ou une partie. Il y a des échanges de technologie avec HTC et tout ça. Je vois mal Apple avoir besoin d'un partenaire technique sans le racheter. La plupart du temps, quand il y a une technologie qui les intéresse, soit ils la copient sans vergogne et voilà. Soit ils rachètent la boîte et ils intègrent les équipes ou ils font le transfert de brevets, de technologies, de ce que tu veux. Et puis c'est fini, on n'entend plus parler de l'autre boîte. Du coup, je les vois mal dire oh, ben, on va s'associer avec Valve pour... Alors, pour du contenu, oui, tu vois.
Ouais, mais, ce que j'allais te dire.
Mais pour du matériel, j'y crois pas.
Bah, il faut avouer que... Alors, on sait qu'ils ont...
Pour du contenu, cas, rendre compatibles leurs lunettes avec le catalogue de Valve, ok. Pour le reste, j'y crois pas.
On sait qu'ils avaient essayé de développer leurs lunettes de réalité augmentée pendant un moment. On sait que le produit, le projet a été annulé. Moi, je me demande s'ils ont vraiment le choix, en fait. Alors, il ne s'agit pas de réalité virtuelle, comme ce que fait Valve, mais bien de réalité augmentée. Il y aurait un partenariat technique. Moi, je me dis que c'est quelque chose de tellement spécifique et tellement précis. Il n'y a pas énormément de sociétés dans le monde qui sont capables de faire ce genre de choses. Je ne sais pas qui pourrait aller racheter. Valve, en l'occurrence, ils ne peuvent pas aller les racheter non plus.
Non. Mais à mon avis, ils ont déjà racheté des boîtes autour de tout ça. Là, on en est plus à la phase d'exploitation logicielle, tu vois. Enfin, la réflexion doit tourner plutôt autour de ça. C'est bien beau d'avoir des lunettes à réalité augmentée, mais pour faire quoi ? Pour jouer à Pokémon Go ? Pour jouer à Minecraft Earth ?
Ah ouais, ça, c'est la grande question. Ça, c'est...
Alors mais que
ça,
Valve a du contenu de jeu, et il y a peut-être des licences ou des choses à aller chercher là-dessus, tu vois.
Bah, moi, je crois plus à la théorie de Cédric, parce que des lunettes de réalité augmentée, moi, j'en ai testé, je pense que vous aussi, c'est pas oufissime non plus, quoi. C'est même pas très intéressant, c'est un truc que tu vas jouer avec, et après, tu vas... Par contre, que Apple, qui a développé son système, la Arcade et compagnie, ils veulent proposer des jeux sur le prochain iPhone avec la réalité augmentée, etc., moi, ça me semble plus cohérent, déjà. Donc,
Et en fait, tu vois, la rumeur, effectivement, il y a peut-être des gens qui ont été chez Valve pour discuter réalité augmentée, discuter jeux vidéo, discuter, pourquoi pas, lunettes, réalité augmentée, tout ça. Et les gens se sont dit, ah ça y est, c'est un partenariat entre eux, ils vont les aider à construire leurs lunettes ou je ne sais quoi. Ça sent beaucoup l'extrapolation, alors que pareil, c'est juste un rendez-vous pour discuter de contenu, tu vois.
C'est ça,
Je sais pas, moi, j'y crois pas trop.
Je pense qu'il y aura de la réalité augmentée peut-être poussée dans un des prochains iPhone hein, ou ce que vous voulez, mais pas forcément un hardware, lunettes ou casque. Ou...
Bah, écoutez, moi je dirais que je pense que cette question de la réalité augmentée ne va pas se jouer sur le jeu. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que ça ne sera pas le cas. On verra, mais si c'est que le jeu, c'est pas une chose dans laquelle Apple se lancerait. Donc,
Si c'est pas le jeu, c'est
et pareil la réunion.
Si c'est pas le jeu, c'est des utilisations soit professionnelles pour des mecs qui bossent dans le bâtiment ou je sais pas quoi, des médecins ou ce que tu veux, soit pour les bagnoles avec des systèmes.
On peut spéculer jusqu'à la fin des temps, mais le truc, c'est que.
Les gars, honnêtement, ils ont été les voir pour leur demander s'ils voulaient pas mettre des jeux dans Apple Arcade, point.
Mais non. Ceci dit, en tout cas, moi, ce que je veux dire là-dessus, c'est que...
je crois trop à ça.
Ouais, mais moi aussi.
Et les gens se sont dit, oh là là, ils y vont pour des lunettes. Non, ouais, stop.
Moi, je ne suis pas aussi convaincu que vous. Il y a quand même une expertise matérielle chez Valve qui pourrait être utile. Et puis surtout, quand on parle de réalité augmentée, si la réalité augmentée d'Apple ne fait pas avancer le schmilblick de la même manière que l'iPhone a fait avancer les smartphones ou l'iPad a fait avancer les tablettes,
Apple TV+,
etc.
Apple TV+, ça va... Wait.
Eh bien, ça ne sera pas vraiment intéressant. Du coup, je pense que ça ne sert à rien de réfléchir à la réalité augmentée en termes de ce qu'elle est aujourd'hui parce que il faudrait que
oui,
ça
soit. Oui, mais c'est pour ça que je pense qu'effectivement ils ont une expérience chez Valve. Mais oui. Pour imaginer des usages qui sont pas, d'ailleurs pas forcément liés au jeu, hein, mais ils sont peut-être effectivement une avance parce que c'est des réflexions qu'ils ont depuis longtemps sur ces technologies-là. Peut-être que même ils vont discuter avec eux sur des échanges. Tu vois, ça va être du donnant-donnant.
Mais moi, je comprends pas pourquoi vous êtes. Je comprends pas pourquoi vous êtes tellement bloqué.
En échange, il y a un transfert de technologie sur un truc, ou tu vois, ou un échange de brevets sur du positionnement dans l'espace en 3D ou ce genre de truc. Mais j'ai un gros doute, mais vraiment, sur le fait qu'ils s'associent. Apple s'associer, ils l'ont déjà fait par le passé avec Motorola pour leur téléphone iTunes. Écoute, ça a été monstrueux. Cédric, je les vois mal sortir un casque co-brandé.
Regarder le passé et se dire que l'avenir va forcément arriver de la même manière, c'est faire, à mon avis, une erreur. Cédric, en l'occurrence, on peut-être que ça ne sera pas le cas, mais moi, je ne suis pas du tout aussi convaincu que vous qu'il est impossible que Apple aille chercher une expertise technologique matérielle chez Valve. C'est peut-être pas super probable, mais ce n'est pas du tout impossible.
Moi, ce que je retiens, c'est que c'est
avec apprendre, mais pas sur le reste. Et une expertise sur ça, oui, sur la distribution de jeux, sur le jeu, sur le multiplateforme, sur ce que tu veux, ok, sur les services. Parce qu'Apple est à donf sur, j'envoie mes services Apple TV sur les télé Samsung, les machins, les trucs. On s'échange des trucs entre nous. Enfin bref, il n'y a pas de souci avec ça. Sur le matos, moi j'ai quand même un
gros doute. On a bien compris.
Ce que j'en retiens, c'est que Cédric et moi, on est très, on va dire, terre à terre là sur le sujet.
Pragmatique.
Et toi, Patrick, pragmatique. Et toi, Patrick, t'as une imagination augmentée.
C'est ça. Exactement.
Mais pourquoi pas ?
Non, c'est pas une imagination. C'est disons que je laisse les possibilités un peu plus ouvertes.
De l'espoir augmenté alors.
Ouais, ouais, de l'espoir augmenté. Ouais.
Écoutez, dans tous les cas, on saura a priori l'année prochaine. Hein,
les lunettes d'Apple, l'espoir augmenté. Et...
ça aussi, je pensais à la route du futur pour le stockage en silica et la suprématie quantique. Bah, on aura aussi l'espoir augmenté. Mais oui, on verra a priori l'année prochaine, deuxième moitié 2020, pour une annonce selon, là encore, les rumeurs. Bon, on va passer sur les AirPods Pro pour les gens qui sont patriotes, qui soutiennent le Rendez-vous Tech. Bah, vous avez un édito sur le sujet, donc vous pouvez aller voir ce que ça donne. En gros, les AirPods Pro, c'est pas mal et ça fonctionne pas mal. Voilà. Apple TV Plus, impression, c'est pas mal. Là encore, de mon côté, de mon estimation, j'ai vu quelques épisodes.
Moi, j'ai droit à un an d'abonnement, mais je n'ai pas encore regardé.
Bon, c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal. Okay. Et puis parlons un petit peu de chiffres pour conclure. J'aimerais vous parler des chiffres d'Apple, d'Uber, de Huawei et d'autres, puisque c'est la période des chiffres, des rapports de la bourse et des performances fiscales. Pour Apple, son quatrième trimestre, ils ont eu... Alors, comme toujours, on ne va pas vous faire une avalanche de chiffres, mais simplement ceux qui sont intéressants, des revenus de 51 milliards de dollars, dont 12,5 sur les services. Donc, voilà,
ils
continuent à avoir des estimations intéressantes sur les... Enfin, des estimations, des résultats intéressants sur les services. Là, on est encore une fois à... un quart des revenus qui viennent des services, quasiment.
Ouais, c'est pas mal. Hein.
Uber, oui, pour une société qui se reposait entièrement sur l'iPhone il n'y a pas longtemps. Ouais. Uber a perdu sur leur troisième trimestre, alors chacun compte de manière différente, mais sur leur troisième trimestre, ils ont des revenus de presque 4 milliards de dollars, 30% d'augmentation de revenus d'une année sur l'autre. Mais ils ont perdu 16,5 milliards de dollars. Ils ont perdu 1,2 milliard de dollars sur leurs 3,8 milliards rentrés. C'est quand même beaucoup, mais selon Dara, le président, il estime qu'ils pourront arriver à la profitabilité en 2021. Donc, ils sont en bonne progression, mais c'est quand même quelque chose de d'impressionnant. Si on compte que les 16 milliards, c'est, si je ne m'abuse, les revenus généraux de toute la boîte, mais ce que récupère Uber eux-mêmes, c'est 3,8 milliards, et ils perdent quand même 1,2. Bah, c'est impressionnant. Ceci dit, Uber Eats fonctionne pas trop mal avec 64% d'augmentation. On est quand même en dessous du milliard, on est à 600 millions de dollars.
Ils ont peut-être été obligés de payer des impôts dans les pays où ils sont installés, je ne sais pas, c'est peut-être pour ça.
Non, mais souvent, pour attaquer un marché, tu sais, ils commencent à perdre.
Ah non, mais Uber, c'est plus que ça. Voilà. Ils perdent des milliards et des milliards de leurs investisseurs depuis des années.
En bouteille d'eau et en petits bonbons, non, je déconne.
C'est pas eux qui les payent.
Ouais,
mais non, ce qui est intéressant, le plus intéressant, c'est que la profitabilité est établie à autour de 2021. Donc, on arrive au bout du tunnel, peut-être pour Uber, s'ils y arrivent, ça, c'est pas sûr. Huawei, qui est dans des controverses depuis un moment avec les États-Unis et le reste du monde, eh ben figurez-vous qu'ils ont vendu 41 millions de smartphones en Chine sur leur troisième trimestre, ce qui est une augmentation de 66% par rapport à l'année dernière. Leur part de marché en Chine est passé de 25% l'année dernière à 42% cette année. Donc moi, la réflexion que ça m'amène, c'est peut-être que c'est pas si mal cette histoire de combat commercial avec les États-Unis, parce que en Chine, ça encourage visiblement les Chinois à acheter du Huawei. Peut-être que c'est pas le seul facteur, mais peut-être que ça leur sert au final, la guerre commerciale, non ?
Ça leur sert parce que là-bas, d'ailleurs, tu vois, acheter un iPhone ou un produit américain, c'est devenu, c'est pas une honte, mais tu sens qu'il y a, ça pose un vrai problème. C'est-à-dire qu'on, tu soutiens pas l'effort national si tu achètes un iPhone, même s'ils sont fabriqués en Chine. Ouais. Mais tu soutiens pas l'effort national et du coup, honnêtement, c'est vraiment pour ça que ils se retournent vers du Xiaomi, du Huawei, surtout du Huawei d'ailleurs, puisque c'est ils sortent un téléphone par semaine. et ils sont pas chers et de bonne qualité. Technologiquement parlant, ils sont vraiment en avance. C'est fou, hein, parce qu'il y a quelques années, on parlait de ZTE, Huawei, tout ça. Et c'était vraiment des téléphones entrée de gamme. Tu disais, mais jamais t'achètes ça. Tu fais pas de photos, tu fais rien avec. Et aujourd'hui, ils sont plutôt sur le devant de la scène en termes de qualité photo et tout ça. Donc, tu vois, les progrès faits, ça devient des vrais smartphones haut de gamme. Il y a aussi ça, hein, je pense que même les Chinois, pour leurs propres achats, acheter du Huawei et tout ça, à l'époque, c'est pas un signe social même de réussite, contrairement à l'iPhone et tout ça. Et maintenant que Huawei taille des croupières à tous ses concurrents, ils se disent finalement, nos produits sont très bons. Et se mettent aussi à acheter du Huawei. Et je pense qu'il y a vraiment de l'achat militant aussi au passage, hein, clairement.
Mais c'est important de le rappeler, effectivement, il y a peut-être de l'achat militant, mais qui est rendu possible par la qualité des appareils.
Ah bah oui.
Donc c'est important de le rappeler, t'as raison. Facebook, leur troisième trimestre, ils ont eu une augmentation de revenus de 29% d'une année sur l'autre. 29%.
Alors que tout le monde les déteste, on dit c'est ça. Nul.
Alors, pire, encore plus fort, l'usage quotidien, le nombre d'utilisateurs quotidiens a augmenté de 9% à 1,62 milliard et l'usage mensuel, le nombre d'utilisateurs mensuels a augmenté également de 8%. On est à 2,45 milliards aujourd'hui. Le nombre d'employés a augmenté, là encore, de presque 30%, 28% d'une année sur l'autre. Et il y a 43 000 employés Facebook. Mais les chiffres à retenir, c'est effectivement cette augmentation des utilisateurs quotidiens et mensuels de presque 10% dans les deux cas. C'est une croissance qui est énorme, surtout pour une société comme celle-là qui a déjà une part de marché aussi grande. J'ai l'impression qu'on vit vraiment dans une bulle de gens qui se disent « Ah, Facebook, c'est pas bien, machin. » Tout le monde s'en fout, quoi.
Ah oui, exactement. Tout le monde s'en fout totalement. On a abandonné l'idée que ça pouvait être mal d'utiliser Facebook. Bon, c'est bon, tout le monde l'utilise. C'est que finalement, c'est pas si mal. Ils ont gagné leur combat, hein, honnêtement. Alors qu'il n'y a pas une semaine sans un scandale, enfin, j'exagère, mais il n'y a pas une semaine sans un souci, un scandale, un truc qui ne va pas. Ben, malgré tout, on continue à l'utiliser et ça ne pose aucun souci à personne. Donc,
Edward Snowden a fait un communiqué là, il n'y a pas longtemps où il dit qu'il faut même encore plus se méfier des sociétés comme Facebook et compagnie que de la NSA, quoi. Donc bon, mais tout le monde s'en branle, mais clairement.
c'est pas tout le monde, mais clairement.
La majorité.
Ça serait intéressant de voir si leur croissance vient de pays qui n'ont pas justement nos préoccupations, si c'est des pays un petit peu plus en voie de développement. Je serais curieux de voir ça. Ça serait intéressant à développer dans une émission à venir, peut-être. Mais oui, ce qui est sûr, c'est que nos préoccupations à nous, qu'elles soient parce qu'on est des geeks ou parce qu'on est dans une partie du monde qui s'en préoccupe, eh ben, elles sont pas du tout suivies par. Enfin, qu'elles soient là ou pas, Facebook continue sa progression. Et enfin, le chiffre, à vrai dire, les chiffres les plus importants, c'est ceux de l'augmentation des utilisateurs quotidiens et mensuels, mais également les revenus. Alors peut-être qu'il y a des subtilités de comptabilité que je ne comprends pas, mais 29% d'augmentation des revenus d'une année sur l'autre, c'est, enfin, ça, moi, ça me fait exploser la tête, quoi. Je suis.
Bah oui.
Bon.
Tu dis c'est pas possible, mais oui. Si.
Surtout dans cette période où on a l'impression que Facebook a atteint son potentiel maximum, mais bon. Et puis pour conclure, le bon petit snap, vous savez, les idées reçues et l'image qu'on a en observateur extérieur de tout ça, on se dit Snap et Snapchat, bah, c'est bon, c'est terminé, quoi. Ils sont dans une chute vertigineuse depuis 2 ou 3 ans, n'est-ce pas ? Bon, ils ne sont certainement pas au niveau de Instagram et d'autres de leurs concurrents, mais ils ont augmenté leurs utilisateurs quotidiens. Ils ont ajouté 7 millions d'utilisateurs quotidiens. Ils ont augmenté de 13% par rapport à l'année dernière. Ils sont à 210 millions. Et les revenus ont augmenté également de 50% d'une année sur l'autre. Alors, ils perdent quand même de l'argent, mais ils continuent à ajouter des utilisateurs et à augmenter leurs revenus. Donc, Snapchat n'est pas si en chute libre que ça. Voilà.
Mais d'où ils viennent ces utilisateurs ? Parce que des fois, tu as des plateformes comme ça qui se développent bien parce qu'elles sont adoptées par, je sais pas, une partie asiatique.
Ouais, c'est ça, oui. Ou alors parce qu'il y a des événements, tu sais, particuliers, genre au Chili, des protestations et des machins, on passe par Snap parce que c'est plus facile, aussi, ou je ne sais quoi, tu vois.
Il y a une source, on sait.
Alors, c'est juste les rapports aux investisseurs.
Quelles sont vos sources, monsieur Béja?
Alors, c'est TechCrunch qui parle du rapport aux investisseurs de Snapchat. Donc, ensuite, vous pouvez aller voir les documents fiscaux et financiers, si vous voulez. Mais oui, ils ne précisent pas d'où viennent leurs utilisateurs, je pense. Encore que, si, voilà.
Quels sont leurs noms?
Ils montrent 28%, alors 6% d'Amérique du Nord, 9% d'Europe, enfin plus 9% en Europe, plus 6% en Amérique du Nord, plus 28% dans le reste du monde. Donc leur croissance vient en plus grande partie du reste du monde que des États-Unis ou de l'Europe.
Du tiers monde, quoi. Non, je déconne.
On dit plus le tiers monde. Hein,
oui, pardon.
Mais oui, donc voilà, c'est effectivement, ça se développe ailleurs et puis ils continuent à réussir. En gros, ce que je retiens, c'est qu'ils sont pas complètement.
Voilà,
ils progressent. La direction va, la flèche va dans le bon sens, quoi. Contrairement à ce qu'on pourrait penser.
mais oui, non, mais honnêtement, c'est vrai que c'est étonnant. En fait, il y a des trucs comme ça où tu te dis, c'est fini. Et en fait, ouais, et tu sais pas si c'est de la com ou pas.
Non, mais au-delà,
tu mets en face Instagram, tu regardes la progression Instagram, je pense qu'elle est fois X. Je pense juste que les gens vont vers ce type de réseaux sociaux avec de l'image. Qu'il y en a une partie qui part sur Snap et que la grosse majorité part sur Instagram. Mais du coup, oui, ça augmente. Mais ça augmente comme le nombre à une époque, le nombre de gens qui avaient des voitures. Tu vois ce que je veux dire ? C'est, les gens se mettent à ce type de réseau social. Donc ça monte forcément. Mais ça ne veut pas dire que.
Tu veux dire que c'est un mouvement général qui.
Oui, je pense.
De nouveaux utilisateurs de réseaux sociaux. Et donc forcément, il y en a qui, genre, débordent sur Snapchat.
Bah, oui, qu'il y a plein de pays. La mobilité, c'est plus simple. Les smartphones, ça monte en qualité. Enfin, ça se développe tout ça. Donc je pense que c'est normal que ça monte, mais comme plein d'autres trucs. Enfin,
peut-être. Il n'empêche que moi, je me dirais que je ne voyais pas. Snapchat gagner des utilisateurs manière. Mais bon. Écoutez, on aura plus d'éléments de réponse dans quelques temps quand on verra si Snapchat a effectivement remonté la barre ou si c'était juste du débordement d'utilisateurs généraux, comme le dit le méchant Corben, qui est très sévère avec ce pauvre Evan Spiegel de Snapchat.
Désolé, Evan.
Écoutez, merci.
Rien de personnel, un bisou. Hein.
Moi, ça me paraît toujours intéressant de décortiquer un petit peu certains de ces chiffres parce que ça peut tordre le cou à des idées reçues qu'on peut avoir ou alors les éclairer d'une autre manière. Donc, c'est pour ça que je passe de temps en temps un petit peu de temps sur ces éléments aussi. Merci tous les deux. On arrive donc à la fin de l'émission. Est-ce que vous pouvez me dire où on peut vous retrouver sur Internet? Commençons par Cédric, tiens.
Ouais, ben moi vous me retrouvez sur studiorenegade.fr où j'anime tout un tas d'émissions, une matinale le matin, Beats le mercredi soir, Geeking le vendredi, enfin voilà.
Super, et c'est sur studiorenegade.fr et pour ceux qui ne savent pas, c'est aussi une chaîne Twitch sur laquelle...
C'est ça, exactement.
Donc en vidéo,
c'est effectivement.
Encore mieux que l'audio.
Bon, je ne sais pas si c'est mieux, mais c'est différent.
Corben, toi, où es-tu sur le net?
Ah bah moi sur le blog corben.info et puis sur Twitter corben.
Je mettrai les liens vers vos comptes Twitter évidemment, sans oublier celui de Jérôme Kainborg. Jérôme Kainborg qui n'est pas là avec nous puisqu'il est, il est au salon de la photo et on lui fait des bises évidemment. Pour ma part.
Dans le salon du chocolat plutôt.
Oh, ouais, peut-être que la photo de chocolat, ça serait un salon dans lequel il serait bien à l'aise.
Il y aurait un intérêt, là.
Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez aussi retrouver cette émission sur frenchspin.fr. Et bien sûr, la soutenir, n'oubliez pas, la soutenir en 2 ou 3 minutes montre en main. Si vous procrastinez depuis un moment et que vous dites « Ah ouais, faudrait que je le fasse à un moment », bah, peut-être que ce moment, c'est maintenant. Le moment, c'est maintenant. Peut-être qu'il faudrait un slogan percutant pour ça, avec des rimes en «
en ».
Le changement, c'est maintenant.
Ah oui, bon, peut-être pas celui-là. C'était qui le changement, c'est maintenant?
François Hollande, non?
C'était Hollande? Non.
Je ne sais plus.
Ah, c'est ça, moi.
Le changement, c'est maintenant.
Il me semble que oui. Hein, mais...
Attendez, on va googler parce que sinon, je vais avoir 12 000...
Ah ça, le rendez-vous politique, tu vas te faire tuer. Ouais. Hein.
Non, c'est pas ça. C'est que tout le monde va me dire le changement, c'est maintenant. Ben si, c'est François Hollande.
François Hollande, voilà.
Clip officiel de François Hollande, ok.
Le changement, c'est mal.
Mais donc, écoutez, que vous soyez pour ou contre la politique, vous pouvez de toute façon soutenir le rendez-vous tech sur patreon.com/rdvtech. Et comme je le disais, si vous procrastinez depuis un moment, bah, c'est peut-être le moment maintenant de soutenir l'émission. Le lien est dans les notes, évidemment, et ça prend 2 minutes. On vous fait de grosses bises et on sera de retour dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous.